À voix nue. Cette semaine, Antoine Ravon rencontre Didier Héribon. Ce soir, l'amitié comme mode de vie.
Bonsoir Didier Héribon.
Bonsoir.
Hier soir, vous nous avez raconté comment vous avez fui Reims et votre monde d'origine, mais aussi comment vous avez raté l'agrégation et pas pu faire de thèse. Alors, vous avez commencé à nous parler de la première déviation de votre trajectoire lorsque vous avez commencé à travailler pour Libération.
Oui, j'ai rencontré chez un garçon avec qui j'avais eu une petite relation amoureuse. Il était assez bourgeois et il invitait des amis à dîner. Et un soir, j'ai rencontré une journaliste de Libération qui était venue avec son compagnon de l'époque, qui était un ami de ce garçon avec qui j'avais cette relation. Et on a parlé et elle m'a dit « Ah, tu devrais faire des articles pour Libé. » Et j'ai commencé, je crois que le tout premier article, ça a été sur la distinction de Pierre Bourdieu. Et puis j'ai fait une interview de Pierre Bourdieu à propos de la distinction. Donc mon entrée dans le métier de journalisme a été un contact avec Pierre Bourdieu, ce qui, là aussi, sans que je le sache à l'époque, allait être un élément tout à fait capital de ma vie ultérieure. Pierre Bourdieu étant quelqu'un que j'admirais, j'avais lu ses livres auparavant, j'achetais chaque numéro de la revue qu'il avait créée quelques années plus tôt, Acte de la recherche en sciences sociales. Donc rencontrer Bourdieu était pour moi quelque chose d'extraordinaire. Et puis, voilà, je me suis installé dans ce métier, ce qui n'était pas facile. Hein. Le métier de journaliste n'était pas et n'est toujours pas un métier où on vous accueille à bras ouverts, où on vous fait une place comme ça, formidable, bien. C'est une place qu'il fallait affirmer, conquérir, défendre. Bon, toujours est-il que je me suis installé dans ce métier qui à la fois était une manière de vivre. J'étais pas journaliste au sens où j'allais faire des reportages, j'étais, disons, critique littéraire dans le domaine de la philosophie et des sciences sociales, et je faisais des entretiens avec des auteurs, qui était pour moi une manière de reconvertir mes aspirations à vivre la vie intellectuelle, à participer à la vie intellectuelle, d'une autre manière que celle que j'avais imaginée quand j'étais adolescent, où je me fantasmais en un Jean-Paul Sartre de l'avenir, et rêve un peu fou, puisque évidemment, ça n'avait strictement aucun sens. Le métier de critique littéraire dans un journal parisien étant presque un rêve tout aussi fou si je l'avais eu auparavant, mais qui se réalisait et qui pouvait se réaliser, tandis que entrer dans une carrière universitaire à l'époque, pour quelqu'un comme moi, était quelque chose de quasiment impossible. La carrière universitaire, faire une thèse, ensuite trouver un poste à l'université, tout ça était quelque chose qui était barré pour des gens venant du milieu d'où je venais. Et bizarrement, le journalisme, en tout cas à Libération à l'époque, où il y avait des gens qui venaient avec une licence, sans être passés par des écoles de journalisme, qui à l'époque n'avaient pas la prégnance qu'elles ont aujourd'hui. Donc c'était beaucoup plus ouvert. Il y avait des gens de tous horizons qui arrivaient. C'est encore lié aux interconnexions, interrelations issues du gauchisme et tout ça. Donc il y avait des gens très 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 différents. Et j'ai pu me faire une place. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai connu Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze et bien d'autres. Marguerite Duras que j'ai rencontrée.
Et à l'époque, vous ne regrettiez pas d'avoir une carrière de journaliste et pas la carrière dont vous rêviez, d'universitaire, d'intellectuel comme Sartre, comme de Beauvoir?
Je ne peux pas dire que c'est un métier de substitution par rapport à ce que j'aurais voulu être, puisqu'en fait, j'étais très heureux de faire ça et qu'au fond, je me disais c'est beaucoup mieux que d'être devenu universitaire à corriger les copies des étudiants. Donc j'avais reconverti mes aspirations et j'étais vraiment très, pendant un certain temps, j'étais très heureux de faire ça. Ça n'a pas duré très longtemps à Libération, puisque c'est un moment où on peut dire que Libération, qui était née de l'effervescence justement des années 70, politique, intellectuelle, est en train de rompre avec ce passé, voulait rompre avec ce passé, et devenir un journal normal, en tout cas normalisé. Et moi, pour qui ce métier représentait justement la possibilité d'être au contact et de donner des moyens d'expression à toute cette culture-là, issue des années 60, à des auteurs issus des années 60 et 70, j'étais en total décalage avec un journal qui, comme je l'ai écrit dans un livre que j'ai publié dans les années 2000, était en train de vivre ce que j'ai appelé une révolution, enfin, être un des éléments de ce que j'ai appelé la révolution conservatrice, où il s'agissait de rompre avec toute l'ébullition intellectuelle liée aux mouvements sociaux. Et là, il y avait une normalisation. Donc je me suis senti vraiment de plus en plus en porte-à-faux dans ce métier. Et je suis parti de Libération de manière très conflictuelle. Et parce qu'ayant quitté Libération, il fallait bien que je trouve un moyen de vivre, un salaire. Le Nouvel Observateur m'a proposé, vous avez remarqué mes articles, mes entretiens que j'avais faits, m'a proposé de rejoindre leur équipe. J'ai été très réticent parce que c'est un journal que je détestais. Et c'est Pierre Bourdieu qui m'a convaincu. Il m'a dit, c'est bien beau d'avoir des principes moraux et politiques, mais il faut bien avoir un salaire à la fin du mois pour pouvoir vivre, et vous serez d'autant plus libre de défendre ce que vous voulez défendre si vous avez un travail que si vous n'en avez pas. Et donc cet argument raisonnable, rationnel, m'a convaincu, et je suis entré au Nouvel Observateur, où je suis resté assez longtemps, là aussi toujours de manière conflictuelle, avec des gens que vraiment je ne pouvais pas supporter. J'avais quelques amis. Un journal, c'est pas homogène, c'est pas un bloc monolithique. Il y a des gens différents. Mais comment dire, la structure même s'impose aux gens différents. Et le journal était une structure assez détestable, je dois dire. Et je ne sais pas comment c'est maintenant, ça n'a pas l'air d'être beaucoup mieux. Et où tout ce qui était lié à la sociologie, à la pensée en termes de classe sociale, à la lutte sociale, aux mouvements sociaux, était devenu quelque chose qu'il fallait soit ignorer, soit pourfendre et dénoncer. Et c'est bizarre que des journaux comme Libération ou Le Nouvel Observateur, dans lesquels des intellectuels comme Sartre, Beauvoir, Foucault avaient joué au départ dans les années après 68 pour Le Nouvel Observateur et dans les années 70 pour Libération, avaient joué un si grand rôle, étaient devenus des journaux dans lesquels ces mêmes noms étaient voués aux hégémonies comme une gauche attardée, et il fallait rénover la gauche, c'est-à-dire détruire tout ce qui définissait la gauche comme étant de gauche.
C'est vrai que hier vous nous avez expliqué que votre découverte de la culture s'est faite à travers des penseurs issus de 68, et là vous nous avez parlé des personnalités que vous avez rencontrées, Foucault, Bourdieu, mais c'est des personnalités aussi dont le travail intellectuel vous a beaucoup beaucoup marqué.
Oui, j'allais dire quelque chose qui, il faudrait évidemment énormément nuancer, parce que, mais j'allais dire, Pierre Bourdieu était l'auteur dont les livres me donnaient la grille d'intellection, d'intelligibilité de ce que je suis. En termes de classe sociale, qu'est-ce que les goûts, qu'est-ce que sur le système scolaire, le fonctionnement du système scolaire, comment le système scolaire fonctionne à l'élimination des enfants des classes populaires, qu'est-ce que c'est que le capital culturel comme fondement même de la reproduction des classes sociales, et comment, quand on dit il n'y a pas de classe sociale, il suffit de regarder le fonctionnement du système scolaire, il faut voir comment le système scolaire produit et reproduit les classes sociales de manière quasi identique de décennie en décennie. Et vraiment, Bourdieu a été pour moi, son grand livre, La Distinction, mais tous les livres qu'il a publiés par la suite, Bourdieu est pour moi le grand penseur du XXe siècle, le grand penseur, en tout cas de la deuxième moitié du XXe siècle, le grand penseur pour aujourd'hui. Je garde à Bourdieu une admiration sans limite.
Et quand vous en parlez, notamment dans La Société comme Verdict, vous décrivez votre rapport à Bourdieu comme un accord intellectuel que vous éprouvez dans votre chair. Il y a quelque chose de très charnel dans l'accord même. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un accord intellectuel sur l'argumentation, mais vraiment quelque chose de profondément vécu.
On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on aime un auteur? Et notamment, alors quand c'est un écrivain, on peut trouver différentes raisons, le style. Mais pourquoi est-ce qu'on aime un auteur, un philosophe, un sociologue? Qu'est-ce qui fait qu'on, pas seulement comme un auteur qu'on lit et où on se dit, oh, tiens, ça c'est intéressant, comme un auteur dans lequel on se reconnaît, on reconnaît ses propres émotions, sa propre vie, ses propres. On comprend son identité personnelle et sociale. Or ça, il n'y en a pas beaucoup, mais je dirais que les auteurs dans lesquels je me suis reconnu et qui m'ont fait cet effet-là, c'est Pierre Bourdieu, parce que sa description du monde social correspondait tout à fait à tout ce que j'avais vécu et me donnait une grille d'intellection de ce que j'avais vécu. Et de l'autre côté, il y avait Michel Foucault, dont des livres comme « Histoire de la folie » ou « Surveiller et punir » qui essaient de penser comment une société impose des normes et exclut, relègue du côté du pathologique tout ce qui ne correspond pas à cette norme. Et évidemment, je pourrais dire que Bourdieu m'a donné une grille d'analyse de ce que je suis du côté enfant d'ouvrier, classe sociale, et Foucault une grille d'analyse pour me penser comme étant un déviant de l'ordre sexuel. Alors évidemment, Foucault écrit sur la politique, sur les classes sociales, sur les mouvements sociaux, et Bourdieu a écrit la domination masculine. Donc il faudrait beaucoup, beaucoup nuancer ce que je viens de dire. Mais en tout cas, dans ces deux auteurs-là, je retrouvais quelque chose de ce que j'avais vécu. Et dans Retour à Reims, je crois que je dis ça, je me retrouvais dans ce que Foucault décrivait dans Histoire de la folie, parce qu'il y décrivait des expériences par lesquelles il était lui-même passé, à savoir la violence excluante, mutilante de la norme, au point qu'on peut devenir fou d'être victime de cette violence de la norme. Et ce sont des... J'ai dit, je crois, que, quelque part, que Foucault et Bourdieu ont écrit dans leurs grands livres des formes d'auto-analyse. La distinction n'est pas l'autobiographie de Pierre Bourdieu, Histoire de la folie n'est pas l'autobiographie de Michel Foucault. Mais ce sont des formes d'auto-analyse, c'est-à-dire que ces auteurs, ces deux grands auteurs, ont essayé à travers leurs livres d'engager des processus intellectuels, historiques, théoriques, sociologiques, tous les niveaux, d'intégrer différents niveaux, pour se comprendre eux-mêmes. Comme dire, il y a un lien, un ancrage biographique, autobiographique dans des grands livres de théorie. Et la distinction, je participais à un colloque une fois sur l'autobiographie, j'avais donné comme l'autobiographie de Pierre Bourdieu, et c'était sur la distinction. Évidemment, ce n'est pas son autobiographie, mais c'est son auto-analyse qu'il faisait bien avant de faire ce petit livre qu'il a écrit à la fin de sa vie, Esquisse pour une auto-analyse. Son auto-analyse, elle était là. La pulsion de départ qui porte le projet intellectuel, c'était une pulsion de comprendre la violence du monde social qui s'était abattue sur lui, le verdict social qui s'était abattu sur lui quand il était jeune, de comment le système scolaire exclut les enfants des classes populaires et comment quelques-uns y survivent, ce qui leur permet, puisqu'ils ont survécu à cette élimination, d'essayer de penser le système, parce que ceux qui ont été exclus ne peuvent pas, n'ont pas les instruments pour le penser. Ce que Bourdieu a appelé à un moment l'odyssée de la réappropriation. Comment se réapproprie son passé avec les instruments de la culture savante. Et je pourrais dire exactement la même chose de Foucault avec Histoire de la folie. Alors, bien sûr, ce n'est pas le cas de tous les auteurs, mais pour ces auteurs-là, qui sont ceux qui m'ont le plus marqué, il est évident que les pulsions personnelles qu'ils ont investies dans leurs travaux théoriques, dans leurs démarches théoriques, sont des pulsions personnelles que je retrouvais, j'ai retrouvé quelque chose de moi-même. J'écoutais récemment une interview de Simone de Beauvoir, où elle dit « Quand j'ai écrit Le deuxième sexe, c'était pour comprendre qui j'étais, la condition féminine, c'est-à-dire la condition des femmes, et je suis une femme. Puis quand j'ai écrit La vieillesse, l'âge venant, je voulais faire la même chose, comprendre ce qu'est être une personne âgée, ce que je suis en train de devenir. » Et à chaque fois, ces deux grands monuments que sont Le deuxième sexe et La vieillesse de Simone de Beauvoir, à chaque fois, le point de départ est un point de départ personnel. Alors après, évidemment, le travail intellectuelle consiste à dépasser ce point de départ personnel, pour y revenir bien sûr, mais pour rendre possible à toute personne de faire ce travail sur soi-même à partir des instruments théoriques déposés dans les livres et rendus disponibles au lecteur.
Mais il y a quelque chose qui me frappe là en vous écoutant parler de Bourdieu, de Foucault, moins de Beauvoir, mais c'est que vous avez utilisé le terme de Patrick Chamoiseau dans un de vos livres, sentimentèque. Et là, j'ai l'impression que la sentimentèque se joue à deux niveaux. C'est les livres qui vous ont marqué, que vous aimez. Mais dans le cas de Foucault et Bourdieu, ça a été des amis aussi très proches.
Oui, j'aime beaucoup ce mot de Patrick Chamoiseau. C'est dans son beau livre qui s'appelle « Écrire en pays dominé ». Et ça rejoint ce qu'on vient de dire. Quand on appartient à une catégorie victime de l'oppression, de formes de systèmes de pouvoir, de systèmes de domination, on essaie de penser ce système de domination et d'y échapper, et on se donne des références. On va chercher des livres dans lesquels on peut se retrouver et essayer de se penser. Et ce que Chamoiseau appelle une sentimentèque. Et parce que c'est pas seulement des livres intellectuels, c'est pas une expérience intellectuelle, c'est une expérience personnelle, émotive, affective, politique. Ma sentimentèque, ça a été évidemment les livres de Bourdieu, les livres de Foucault, mais par les hasards de l'existence, ce sont des auteurs que j'ai été amené à connaître et avec qui j'ai noué des relations d'amitié extrêmement intenses, des amitiés complices avec Foucault. C'était une amitié très très forte, on riait beaucoup ensemble, on parlait beaucoup ensemble. Et au fond, bon, ça n'a duré que quelques années parce qu'il est mort en 84. Au fond, avec Bourdieu, ça a été un peu la même chose, mais sur une beaucoup plus longue période, plus de 20 ans, je l'ai connu. 79, quand j'ai fait cet entretien avec lui pour Libération, c'était comme un coup de foudre amical. Et cette amitié a duré jusqu'à sa mort en 2002, je crois. Et par conséquent, on se parlait au téléphone quasiment tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. C'est pas le même type d'amitié, puisque avec Foucault, il y avait la complicité gaie, où il y avait des blagues, des... Et on riait beaucoup. Foucault était quelqu'un avec qui on riait beaucoup. D'ailleurs, Bourdieu aussi. Mais ça a été des amitiés très très proches, et donc c'était pour moi très... Je n'étais pas quelqu'un, quand j'ai raconté hier mon enfance, je n'étais pas quelqu'un qui était destiné à devenir quelqu'un qui allait être ami avec les grands intellectuels de l'époque. Non seulement c'était quelque chose de merveilleux pour moi, mais j'ai connu des gens merveilleux qui avaient une chose formidable, c'est la générosité. C'était des gens qui avaient le souci de vous aider à surmonter des difficultés, à opérer des choix, à avoir confiance en vous-même quand vous n'y arriverez pas. Je sais que Pierre Bourdieu n'arrêtait pas de me dire « Vous devriez soutenir une thèse, ça pourra vous être utile un jour, quand vous en aurez marre du journalisme. » Je ne l'ai pas écouté à l'époque. Après, j'ai suivi ses conseils, mais beaucoup plus tard. Et Pierre Bourdieu n'arrêtait pas de me dire « Vous devriez écrire un livre. » Parce que quand on écrit un livre, on devient quelqu'un d'autre. Et je lui dis « Oh, vous savez, moi, je n'ai pas envie d'écrire des livres, je suis très bien comme ça. » Parce que pour moi, déjà... Être journaliste, critique littéraire dans un journal était un accomplissement formidable. Je trouvais qu'écrire des livres était quelque chose de superflu. Je ne me voyais pas comme auteur. Et Bourdieu insistait. Il me disait, mais je vous donnerai des conseils, je vous aiderai. Et ce sont des gens qui m'ont beaucoup marqué par, à tous les égards, évidemment, leur œuvre, leur personnalité, le rayonnement, l'effort pour comprendre le monde social, leur engagement politique et tout ça. À tous ces égards, ces gens m'ont marqué. Mais un des traits sur lesquels je voudrais insister, c'est leur générosité, leur capacité à entrer dans les problèmes que vous aviez et à essayer de vous aider à, si ce n'est les éliminer, ces problèmes, du moins les surmonter, en sortir, en faire quelque chose. Et À cet égard, ce sont des Bourdieu, Foucault, ou je pourrais donner quelques autres noms, bien sûr, sont des gens à l'égard de qui j'ai une dette considérable et j'ai toujours eu à cœur de reconnaître cette dette et de leur exprimer de manière aujourd'hui posthume ma gratitude.
Et oui, il faut dire aussi que dans votre vie, donc, l'amitié a eu un rôle très important et vous l'avez même théorisé dans certains de vos ouvrages, par exemple dans Réflexion sur la question gay, et vous citez une expression de Foucault, justement, qui est l'amitié comme mode de vie.
Quand on n'adhère pas à la vie familiale, au modèle familial, ce qui était mon cas parce que j'ai quitté ma famille, il est évident qu'on s'invente un autre type de relationnalité. Et cette relationnalité est une relationnalité amicale, c'est-à-dire, comme dit Mathieu Lindon dans son beau livre sur Foucault, ce qu'aimer veut dire, il dit « mes amis biologiques ». Et j'aime beaucoup cette expression, parce que de fait, on oublie la famille biologique et on devient ami avec des gens qui sont avec une sorte de complicité, de proximité, d'intensité amicale, qui fait que l'amitié est un mode de vie. J'ai toujours vécu de cette manière-là. J'ai vécu l'amitié comme un mode de vie, oui, c'est ça. Je vois mes amis, je dîne avec mes amis, je vais au cinéma avec mes amis, je vais au concert avec mes amis, au théâtre avec mes amis, je vais en vacances avec mes amis. Pour moi, ça a été quelque chose de très important parce que les amis, vous les choisissez. Ce sont des affinités électives, ce sont des choix. Et évidemment, dans une des choses que je détestais dans ma famille, par exemple, c'était le racisme omniprésent, envahissant. Toute conversation était émaillé de propos racistes, haineux à l'égard des migrants, etc. Et quand vous choisissez vos amis, évidemment, vous les choisissez de telle sorte que vous n'êtes plus exposé à ce genre de propos. On peut avoir des désaccords avec des amis, on peut avoir des discussions même un peu vives, franches, mais il y a un point, on se fait confiance, on est d'accord sur l'essentiel, même si on discute de beaucoup de choses, même si on se chamaille sur des détails plus ou moins importants, on est d'accord sur l'essentiel.
C'est quoi l'essentiel ?
Les grands principes moraux, les grands principes politiques, l'adhésion à la justice sociale, une idée de la société dans laquelle on voudrait vivre. Et les désaccords ne sont jamais des désaccords qui mènent à un point de rupture. Et quand ça mène à un point de rupture, dire qu'on a des amis ne veut pas dire qu'on a des amis qui durent toute la vie. J'ai eu des amis très proches qui ne sont plus aujourd'hui des amis parce que l'amitié implique une fidélité, une loyauté, un engagement dans la fidélité et la loyauté qui n'a pas besoin de se déclarer du genre « je serai loyal », mais qui se réaffirme tous les jours. L'amitié, c'est quelque... On dit souvent « un ami autoproclamé ». Mais oui, l'amitié est toujours autoproclamée parce qu'il n'y a pas d'institution pour l'attester. Les liens familiaux, les liens conjugaux, tout ce que vous voulez, ils sont attestés par l'état civil, par des institutions. L'amitié... Il n'y a pas d'institution qui peut l'attester. Il y a pas, vous ne signez pas un papier, nous sommes amis pour le meilleur et pour le pire, etc. Et l'amitié est toujours autoproclamée. Vous devez la réaffirmer, la reproclamer chaque jour. Quand vous allez prendre un café avec un de vos amis, vous réaffirmez, vous réinstallez l'amitié. Et c'est ça, l'amitié comme mode de vie. Et évidemment, si un jour vous considérez que quelqu'un vous a trahi, a fait quelque chose que vous avez détesté et que... Après l'explication toujours nécessaire pour savoir ce qui s'est passé, vous considérez que vous ne pouvez plus être ami, l'amitié s'arrête. Donc l'amitié comme mode de vie veut dire aussi que vous pouvez changer d'amis, avoir des nouveaux amis, ce qui m'est arrivé à de nombreuses reprises.
Et dans l'amitié, il y avait le conseil de Bourdieu qui vous conseillait d'écrire un livre. Et Édouard Louis, maintenant, dit qu'il a pu écrire grâce à vous parce que vous étiez amis. Vous retrouvez de l'autre côté de l'amitié, à la place de celui qui conseille.
Oui, ben oui, parce que l'amitié, vous savez, dans les écoles philosophiques de l'Antiquité, le professeur était en même temps le guide, un guide dans l'existence, un directeur de conscience. Mais évidemment, le jeune homme qui a un professeur qui est en même temps son directeur de conscience prend de l'âge, vieillit, et devient, vient occuper le rôle du professeur avec des amis plus jeunes. Et c'est le cas pour ce qui me concerne avec notamment Édouard Louis et quelques autres personnes. Mais je ne vais pas faire une liste comme ça, radiophonique. Édouard Louis l'a dit, l'a exprimé. Quand il a lu Retour à Reims, il a été marqué par ce livre et il a été mon étudiant. Et j'ai joué avec lui le rôle que des gens comme Foucault ou Bourdieu avaient joué avec moi sans que j'aie été leur étudiant. Comment dire, j'étais à la fois un professeur, mais aussi un peu un directeur de conscience, de me demander des conseils. Et il a eu envie d'écrire un livre. Il me racontait des anecdotes de sa vie. Je lui avais dit, vous devriez en faire un livre. Il m'avait dit, je ne saurais pas le faire. Je lui ai dit, mais essayez, vous verrez bien si, à l'époque on se disait, essayez, vous verrez bien si vous savez le faire ou pas. Vous ne pouvez pas dire avant que vous n'allez pas réussir. Et je l'ai encouragé. Et puis il s'est mis à écrire ce livre. Parfois, il me disait, je n'y arrive pas, c'est trop difficile, j'arrête. Je lui dis, vous savez, écrire un livre, c'est rencontrer des difficultés. C'est parce que vous écrivez un livre que vous rencontrez des difficultés. Sinon, vous ne seriez pas en train d'écrire un livre. C'est jamais facile. Et il a fini son premier livre, En finir avec Eddie Bellegueule, l'a publié avec le succès phénoménal que des gens m'ont attribué, ce qui est tout à fait farfelu, saugrenu, parce que si je savais comment on organise un succès aussi phénoménal, j'ouvrirais un cabinet de conseils, comment organiser des succès de livres, et je gagnerais beaucoup d'argent. C'est dû à son talent, à son énergie, son talent exceptionnel. Mais ce qu'on peut m'attribuer, c'est l'impulsion de départ ou le rôle de... C'est un peu bête de dire les choses comme ça. Le rôle de modèle. De la même manière que pour moi, Foucault, Bourdieu, quelques autres ont joué le rôle de modèle. Non pas que je voulais imiter, mais de modèle qui me donnait des exemples de ce que j'avais envie de faire. Pour Édouard Louis, j'ai joué ce rôle de modèle de quelque chose à quoi il aspirait. Donc il voulait non pas écrire des livres de théorie, mais de la littérature. Il a écrit ce premier roman, puis l'œuvre qui a suivi.
Alors vous nous avez aussi évoqué aujourd'hui votre carrière de journaliste. Demain, je vous propose de nous retrouver pour évoquer votre carrière d'universitaire, en tout cas les premiers livres que vous avez publiés.
À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Ravon avec Didier Ribon. À voix nue. Réalisation Marie Placet. Prise de son François Rivalan. Attaché de production Daphné Abgral. Coordination Sandrine Trainer. À voix nue. Se réécouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.